Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Histoire d'en rire, le podcast avec un titre de merde, mais qui a pour seule qualité, ce titre, de bien résumer de quoi on va parler avec mes...
History Pot,
je vais poser des questions cheloues sur l'histoire et on va essayer d'en rire. Soyons donc moyennement historiques et moyennement drôles avec Eleanor.
C'est moi.
Ariel.
Bonsoir tout le monde.
Et Benjamin.
Salut.
Abonnez-vous, mettez-nous 5 étoiles, c'est super important. Et merci à NordVPN de sponsoriser ce podcast. On est disponible partout et même sur YouTube. Et je crois que ça désabonne pas mal de gens de la chaîne, parce que depuis que je mets plus le podcast, on a des gens à nouveau qui s'abonnent et pas des désabonnements. On va voir dès avril. Bienvenue dans l'émission. Et on commence tout de suite avec un invité, mais qui n'est pas vu.
Ah, mais ouais. Pourquoi ?
Attends.
Ah, tu n'as pas donné l'adresse ?
Il est coincé sur le périph. Ouais.
Non.
Il s'est trompé de métro ?
Non.
Il est coincé dans les douches ?
Non.
Après son match ?
Ah, parce qu'il a fait la biscotte, il a
non,
perdu.
Non, non,
ah,
c'est, non, c'est juste qu'il s'est retrouvé enfermé. Pourquoi tout de suite la dégueulasserie ?
Ah, mais non, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, il n'est pas venu parce qu'il est mort.
Oh, ah oui, quand même, c'est, oui, c'est un sacré empêchement.
Aujourd'hui, on aurait dû recevoir Émile Zola dans l'émission et je me suis dit, mais merde, tout le monde connaît Émile Zola et même Benjamin a déjà fait une chronique dans cette même émission.
Zozo la canaille.
Ouais. Et Eleanor nous a appris que Émile Zola vivait en plus dans sa région, les Deux-Sèvres.
Pff, n'importe quoi.
Si, tu l'as dit.
Les Yvelines. Il habite dans les Yvelines. Mais au bout de ma rue.
T'as dit les Deux-Sèvres la dernière fois.
Le mec est donc connu dans le monde entier, même dans les Deux-Sèvres et les Yvelines. Alors, pour être à la marge par rapport à tous les autres podcasts historiques et pour ne pas plagier Benjamin, je vais vous faire un résumé de la vie d'Émile Zola extrêmement original. Je pense même...
C'est juste, en fait, on a fait le tour des personnages historiques, c'est ça ? Pour ça, on va refaire après
Chanel, en vrai, j'avais oublié les personnages qu'avait fait Benjamin. J'avais commencé à bosser sur Émile Zola. Et après, je suis remonté sur toutes les émissions et je me suis fait une liste de tous les gens qui avaient déjà été invités. Et j'ai vu qu'Émile Zola, c'était parmi les premiers. Et j'ai fait merde. Et vu que j'avais un angle un peu différent, j'ai fait... Bah les couilles.
Là, cette fois-ci, les gens vont se dire, tu t'es trompé de chaîne, par contre.
Oui, c'est vrai. Donc, je vais, sans me vanter, être le seul au monde à avoir fait une rubrique comme ça sur Émile Zola. On va parler d'Émile Zola en omettant tous ses succès de carrière et tout ce qu'il a rendu connu. D'accord ? On va parler d'Émile Zola avec tout ce qu'il a fait de normal ou de bof.
T'as séparé l'homme de l'artiste.
Exactement. J'ai séparé l'homme de l'artiste. Bouh. Et voilà ce que ça donne. Émile naît à Paris le 2 avril 1840. Il est du signe de la balance et aime porter des bérets. Normal, il est français. S'il avait pu, il aurait conduit une deux chevaux, mais ça n'existait pas. En numérologie, il est le 4 et une fois, il est allé à Brest. Il a trouvé Brest joli, mais un peu loin. À 12 ans, il découvre la masturbation, même s'il n'éjacule pas encore, ce qui arrivera un an plus tard.
Attends, ça c'est écrit ça ?
Ah oui, c'est sur Wikipédia. Moi j'avais vu ça sur Wikipédia.
Ouais, quand c'est fait la Wikipédia. Et j'ai fait aussi une enquête Facebook.
Mais pourquoi ?
Il rate deux fois le bac, ce qui désespère sa mère. C'est vrai. Un an plus tard, à 20 ans, il tombe amoureux de Berthe, une prostituée. C'est vrai. Il décide de l'aider à sortir de son métier de bouche en lui redonnant goût au travail. Peine perdue pour elle, le goût du travail, ça reste le sperme.
Sur des biscottes ?
Sur des biscottes. C'est vrai.
Non mais ce condensé de vulgarité en trois lignes, il est génial.
Ayant envie de vivre d'un métier artistique, il se lance dans la peinture sans grand succès. C'est vrai. En 1864, Émile sort avec Éléonore. Oui.
Pas moi.
Une fille a priori hyper rigolote. Éléonore se fait pas appeler Éléonore, mais Gabrielle. Pourquoi ? parce qu'elle a décidé de porter le prénom de son bébé qu'elle a abandonné à l'assistance publique à ses 17 ans. L-O-L, c'est vrai, c'est complètement vrai. La guerre éclate en 1870, mais Zola étant myope, il est démobilisé. C'est vrai. Donc, bah, il ne sera pas médaillé de guerre. Et après 1870, bah, croyez-moi, on perd un peu la vie de ce mec. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Entre 1870 et 1902, vraiment, j'ai rien trouvé d'hyper intéressant.
Il a fait une école du cirque. Et il était super bon en diabolo.
C'est ça. Et en 1902, en revenant de Médan, où il avait l'habitude de passer ses étés.
C'est là, c'est chez moi.
Et il
78
bien...
670, c'est son code postal.
Il aimait bien se promener près de la mare. Et il a été intoxiqué par la combustion lente d'un feu de bois de cheminée dans sa chambre. Donc Émile Zola est donc mort étouffé la nuit par un feu de cheminée.
Chez lui ?
Oui. Donc voilà, ça c'est vrai, hein, il est mort comme ça. Donc,
parce qu'il a tous les matins pour aller à l'école.
Zola a raté tous ses diplômes.
Oh non.
Il a échoué à séduire une prostituée. Il a raté sa carrière de peintre. Il a raté un triomphe militaire et il est mort dans son sommeil à cause d'un feu de bois. Une belle vie de merde.
Et t'as pas parlé
de tocard,
mais le loser.
T'as pas parlé du fait qu'il avait une relation avec sa bonne.
Avec sa femme. Il avait une relation avec sa femme.
Non, j'allais dire femme de ménage, mais je sais pas si c'est bonne femme de ménage. Et il a trompé Gabrielle avec sa femme de ménage, avec qui, enfin ou sa bonne, je sais pas.
Ça c'est Arnaud Schwarzenegger.
Avec qui il a eu des enfants illégitimes et il l'a logé de l'autre côté de la rue.
Ah, je sais.
Il est sympa. Ouais. Ceci dit.
Bah il l'a logé quoi.
Ouais.
Oui, voilà, et il a carrément trompé sa femme.
Mais en tout cas, tout ce que je vous ai dit est quasi vrai. Voilà. Et par contre, chose que les historiens sont pas ok, certains pensent que c'est un meurtre.
Ah ouais.
Parce qu'il avait trompé.
Bah déjà non, il y avait eu tout le. Bah, c'est un truc vague hein, dans sa carrière, mais je crois qu'il avait fait un truc comme j'accuse. je crois. Et il avait pas que des amis à cause de ce petit article de presse. Et il avait même fui à Londres, il était revenu.
Ouais,
et il semblerait que la cheminée était bouchée.
Ah.
Et qu'à l'époque, c'était pas rare que les cheminées bouchées, bah, ça tue des gens. Puisque Et sa femme a failli mourir, mais sa femme est pas morte. Voilà. Bref.
Peut-être parce que c'est elle qui l'a tué, parce qu'il l'a trompé avec sa bonne.
Enfin, peut-être, je ne sais pas. Allez, on y va pour les questions. Je rappelle que le perdant va devoir répondre à un tu préfères à la fin de l'émission. Pline l'Ancien détestait un truc de manière viscérale, à tel point qu'il a écrit une liste de méfaits de ce truc-là. Mais qu'est-ce ?
La menthe.
Juste... La menthe. Pline... Je déteste quand on a des plats. J'adore comment c'est venu. Direct, la menthe. Non, c'est pas la menthe.
Pline l'Ancien ?
Mais ça me
Pline,
dit un truc.
L'ancien.
Pardon,
c'est un,
hein, sinon.
C'est un grec. Un,
ouais. Ah d'accord. Okay.
Qui était ancien.
Philosophe. Un philosophe grec qui est plus ancien que Pline le Jeune. C'est vrai.
Okay.
Et que Pline Junior.
Donc il détestait quelque chose.
Et il était plus gay que Spline.
Spline l'Ancien, 79 après Jésus-Christ.
Ah après, bah, c'est pas si ancien que ça.
Né en 23 après Jésus-Christ.
Il détestait Jésus.
Il détestait la lecture, il trouvait que la lecture c'était...
Non. Il détestait un truc très précis.
C'était de l'ordre de la nourriture, de l'ordre humain.
Humain.
Politique.
Le rire.
Non, alors non.
Les blagues.
Non. Dans, humain dans le sens un peu large. Hein, c'est dans.
Il détestait les foules.
Non.
Il détestait les étrangers.
Non.
Les mouvements.
C'est un truc qu'un humain peut produire plutôt.
Les enfants.
Des
non.
Paix.
Non.
Ah. Il détestait une substance d'humain.
On va dire ça comme
la
ça.
La merde.
Non.
La salive.
Non.
Le sperme sur des biscottes.
Ah, il détestait, il a écrit
non.
Netflix.
C'est vrai que les JO, au JO, c'est plus l'Ancien, il détestait quand c'était le moment de la biscotte.
Attends,
le sang.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Ah oui.
Précise.
Les règles.
Les règles. Bonne réponse. Benjamin Pline l'Ancien était hyper énervé contre les règles et à tel point qu'il a écrit. Il a écrit des trucs sur les règles.
Mais il
je
avait pas
vous
Netflix
lire.
Ou quoi ? Il avait rien à faire
il
de
avait
sa
pas
vie.
Netflix,
hein.
Je cite Pline l'Ancien. Hein, c'est pas moi qui le dis. Mais difficilement trouvera-t-on rien qui soit aussi malfaisant que le sang menstruel.
Mais il ne peut pas écrire normalement, en fait.
Une femme qui a ses règles fait aigrir le vin doux par son approche.
Mais quel con c'est.
En les touchant, frappe de stérilité les céréales. De mort, les greffes. Brûle les plants des jardins. Les fruits de l'arbre contre lequel elle s'est assise tombent.
Mais
Son regard ternit le poli des miroirs.
Mais il est misogyne ou il est misogyne?
Il s'est pris un râteau et il a jamais digéré le truc. Quoi.
Les règles attaquent l'acier et l'éclat de l'ivoire. Les abeilles meurent dans leur ruche à cause des règles.
Oui, parce que on met nos poches de sang là dans les. Dans
alors
les
non, c'est quand une femme qui a ses règles approche une ruche, elle les tue. Quand une femme qui a ses règles approche de la rouille, non, la rouille s'empare aussitôt de l'airain et du fer, et une odeur fétide s'en exhale. Wow. Les chiens qui goûtent de ce sang deviennent enragés et leur morsure inocule un poison que rien ne peut guérir.
Écoutez, écoutez, c'était avant MeToo, c'était une autre époque.
un petit peu avant MeToo.
Voilà, c'est une autre époque.
C'est juste après Jésus.
Ouais, voilà.
Et bien avant MeToo, on a envie de dire.
Oh là là, mais...
Bravo, Benjamin.
T'es, il était vraiment
non mais attendez, là je vous ai lu,
drôle, tu vois,
vous genre, ai lu un extrait. Hein. Ouais. Il y a des listes et des listes de ce que les femmes qui ont les règles font.
Mais c'est le premier rageux sur Twitter, lui.
Ah non mais le gars, mais j'imagine le soir dans son tonneau ou je sais pas ce qu'il avait. Les règles.
Mais surtout, d'où est-ce qu'il a inventé tout ça? Est-ce que il était persuadé que c'était vrai, genre? Comment, c'est quoi ça? C'est quoi son étude scientifique?
J'arrive à me demander si c'est pas des vannes qu'on aurait pris aujourd'hui comme un truc.
Non mais je pense qu'il y a des trucs qui le truc de ça fait aigrir le vin. Je l'ai déjà entendu. Je pense qu'il y a des on-dit de l'époque.
Ah oui, peut-être.
C'est peut-être de ça. Hein.
Oui, oui, peut-être. Ah, peut-être. Le mec, il a cumulé tous les trucs que les gens disaient autour des règles.
Mais
quel connard!
Putain, drôle, c'était.
Il
venait voir ses potes et il dit tout ça. Oh putain, il va encore nous sortir.
Ah, je vous ai déjà parlé des règles des femmes.
Ouais,
oh non,
Blin,
Blin, arrête.
On peut pas passer à autre chose. Elle t'a dit non, c'est pas grave, passe à autre chose.
Ah, ce vin, il est pas un peu aigri? Non, parce que les femmes. Pendant la Seconde Guerre, les nazis ont inventé un drone avant l'invention des drones.
Les pigeons.
Bon, c'était un drone qui volait pas, donc c'était pas vraiment un drone. C'était un petit char bourré d'explosifs, commandé à distance, qui se dirigeait sur les lignes ennemies et boum! Mais ça marchait pas de ouf. Pourquoi?
Bah parce que c'était, j'imagine, avec les ondes radio, ça devait faire des parasites.
Ça explosait avant d'arriver?
Non, t'as une bonne piste, mais c'est pas ça. Il a un nom, ce char, je l'ai oublié. Je vais chercher.
Pichoud.
Non, c'était mais le nom est pas mal en plus. Je vais chercher.
Christophe.
Non, mais c'est un bon nom de char parce que tu te dis on va se faire attaquer par des Christophe. T'es genre ouais, c'est bon, ça doit pas être extraordinaire comme.
Benjamin, t'étais pas loin.
Ah ouais.
de ta réponse, pas de Pichoun.
Le Goliath, il s'appelait.
Ah ouais.
Eh ben parce que il était trop facilement hackable, piratable.
Oui.
Donc il se retournait contre eux.
Alors non, mais vous l'avez les deux. Vous avez les deux, mais il faut un truc. C'est encore
parce
plus
que
débile que
la
ça.
La portée de la télécommande, elle est pas assez grande.
C'est plus débile que ça.
En fait, ça se rapprochait des lignes ennemies, donc c'est les ennemis qui avaient le contrôle du truc.
Non,
vu que c'était.
Non. Vous y
êtes. Ah non, je sais. C'est parce que c'était. C'était pas parce que c'était une télécommande à fil. Donc
c'était filo-guidé. Les ondes n'existaient pas. Du coup, c'était une télécommande à fil. Du coup, à un moment, les gens disaient: mais si on coupe le fil.
Oui.
Et du coup, les gens coupaient le fil et ils faisaient: ah, c'est pas aller au bout. Voilà. Bravo, Benjamin. C'était filo-guidé.
Oh, c'est con.
C'était très con. Mais c'était. En même temps, c'est du génie.
Mais c'est
bah,
trop.
Comment aller attaquer
tout
Oui,
tout
c'est ça, tout seul. Ouais. Mais les nazis. Alors. Non, je vais pas le dire.
Les nazis, quoi qu'on en dise,
bah,
ils avaient des idées.
Ils avaient eu quand même pas mal d'idées en avance. Mais bon,
allez bien, tout seul. Bravo.
Ouais, ouais. C'est le moment d'Eléanor.
C'est mon moment. Attends, j'appuie sur Rec. Alors, parce que j'ai pas relu ce que j'ai écrit, là, je le relis.
Bon, c'est bien, ça te fait rire déjà.
Non, moi, ce que j'adore avec Eléanor, c'est qu'on a tout. Tout ce qu'il y a dans le cerveau, dans la tête, tout est dit. Donc, pas de surprise.
Aujourd'hui, méga surprise, nous sommes partis en urgence aux USA. Ah non, on va apprendre l'origine du mot cordon bleu.
Quoi? Quel est le lien? Quel est le lien?
Aucun. En fait, je voulais commencer ma chronique par aujourd'hui, méga surprise, et j'ai fait tiens, on dirait Xavier Dupont de Ligonnès, donc j'ai continué.
Attends. Est-ce que tu peux expliquer l'explication?
Vous aviez pas la ref?
Si, moi je l'ai, c'est pour ça, mais ça me fait quand même.
Mais qu'est-ce que ça fout avec les cordons bleus?
Mais non, c'est juste que je voulais commencer ma chronique par aujourd'hui, méga surprise. Okay, on va parler des cordons bleus. Bref.
Bah attends, les cordons bleus, les trucs qu'on mange quand on n'a pas le temps et qui fait grossir.
L'origine de l'expression cordon bleu.
Ah, quelqu'un qui a un cordon bleu.
Tu vas voir.
Ah, faut pas comprendre.
C'est pas une expression, un cordon bleu, c'est un aliment.
Si, c'est aussi
c'est
une
expression. Un cordon bleu. Quand t'as un cordon bleu, c'est que t'as un bon
ta
cuisinier.
Ta mère, c'est un
oui,
cordon
un
bleu.
Bon cuisinier.
Non, en plus, Davy, c'est toi. Bah,
c'est
on a lu le truc ensemble.
Mais ça va, j'ai oublié. C'est bon, toi, t'oublies là... tout. T'oublies tout. Et moi, j'ai pas le droit d'oublier un truc.
Mais c'est vrai que Xavier Dupont de Ligonnès était un très bon cuisinier. Hein. Vous savez, on l'oublie.
On allait toujours souvent manger chez lui en terrasse. Ouais.
On parle toujours des assassinats, mais c'était il te faisait une ratatouille. Enfin, un tian. Lui, il disait que c'était un tian. Mais il était très très bon.
En gros, ça vient du 16e siècle. Comme à peu près toutes les expressions. C'était.
Toutes les expressions viennent du 16e siècle.
Ils étaient super. T'es, à l'époque, ils auraient inventé. Par contre, les expressions, ils y sont allés à fond, quoi. Écoutez, quand on n'a pas Netflix, hein, on se débrouille comme on peut. Hein.
Non, mais. Pour de vrai, là, toutes les expressions, je vous ai dit, elles datent du 16e
siècle.
Ouais,
le 16e siècle, le siècle des expressions, comme on dit.
Il y a le siècle des Lumières et puis le siècle des expressions.
C'était la récompense avant la Légion d'honneur instaurée par Henri III. La croix de Malte fixait un ruban bleu.
Ah, oui, je savais.
Par extension, c'est devenu la façon de désigner les personnes méga qualifiées dans un domaine particulier.
Ah, on pouvait être un cordon bleu, mais du jardinage.
Ouais. Par exemple, David, tu as un cordon bleu de l'humour.
Oh, merci Benjamin. Et toi, tu as un cordon bleu de... J'ai pas d'idée.
Et du coup...
Okay. Bon anniversaire encore.
Du coup, il y a une meuf, Marthe Distel, qui du jour au lendemain, elle a décidé de créer un journal sur la cuisine, la cuisinière cordon bleu. Et puis, de là, il y a eu des écoles qui se sont appelées cordon bleu au KLM.
Mmh. Ah, ils lui ont volé l'idée, quoi. Ils lui ont volé le nom.
Non, c'est elle qui a s'est approprié le truc.
Ah, okay.
Et de là, il y a eu... Je sais pas si elle était derrière les écoles de cuisine, mais bon, voilà. Aucun rapport, donc, avec la recette d'escalopes panées, dont on a encore des doutes sur l'origine. Soit c'est juste parce que les escalopes qui servaient à faire le plat étaient attachées dans des cordons bleus, soit c'est un cuisinier de mérite, un cordon bleu donc, qui l'a créé.
Et on a tout compris et c'est hyper intéressant, Eleanor.
Et il
pas
reste
fini.
Trois lignes.
Ah oui.
Je vous laisse vous approprier l'origine que vous voulez. En attendant, le vrai nom du cordon bleu, c'est escalope à la viennoise et c'est dans un livre de cuisine suisse datant de 1949 qu'on le voit pour la première fois.
Merci encore.
Donc c'est suisse.
Ok.
Le cordon bleu, vous saviez que c'était
non.
suisse?
Non, mais c'est hyper intéressant. Ouais. Et que savoir qu'avant, un cordon bleu pouvait faire un autre métier que de la cuisine. Ouais.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
C'est assez fou.
Ouais, moi j'adore les cordons bleus.
Ouais. Et les aimants surtout. Les aimants pour frigo.
Ah ouais, les mais aimants ouais. pour frigo.
Alors
ouais,
qu'aujourd'hui, ouais, tu dirais, ouais, je suis un cordon bleu du sexe. Bon, ok, ouais, d'accord, mais.
Un peu chelou, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, on a l'impression que tu fais surtout de la cuisine sur biscotte, quoi. Ouais. C'est tout, ouais. Bon, merci beaucoup, Eleanor. NordVPN vous permet de créer un réseau mesh. Ah, et même moi, avec NordVPN, je peux avoir une mesh.
Mais je sais pas ce que c'est un réseau mesh, Davy, tu peux me dire.
Un réseau mesh, c'est un moyen d'accéder en toute sécurité à d'autres appareils. Où qu'il soit dans le monde, une fois configuré, il fonctionne comme un réseau local, une LAN, quoi.
D'accord.
En connectant les périphériques directement. Réseau mesh est donc idéal pour activer en ligne une ligne qui nécessite une grande vitesse, une faible latence et une sécurité avancée. Comme par exemple le partage de fichiers, des collaborations de travail actives ou des jeux multijoueurs. Voilà. Et vous pouvez vous abonner à NordVPN grâce à Histoire d'en Rire avec le code RIRE pour un abonnement de 2 ans, 4 mois sont offerts et en plus c'est garanti satisfait ou remboursé sous 30 jours et le lien est juste en dessous de ce podcast ou quelque part, en tout cas c'est sur nordvpn.com/rire.
Cordon bleu de la protection.
Exactement.
Est-ce qu'on peut inventer un personnage, genre une entreprise ennemie de NordVPN, genre SudVPN, et on les taille, SudVPN
si tu veux, SudVPN est quand même beaucoup moins performant que NordVPN, ouais. Bien sûr.
Est-il seulement performant?
Ouais.
Oui, c'est vrai.
Alors, Benjamin a 2 points. Ariel et Eleanor, va falloir vous réveiller un petit peu.
Moi, je m'endors un peu.
Bah, non.
Est-ce que t'es sûr que tu n'es pas narcoleptique?
Je sais pas.
Ah ouais, vas-y.
Non, je pense qu'elle est TDAH.
Tu t'es fait diagnostiquer?
Non.
Il faudrait peut-être. J'ai non, mais pour de vrai. Hein.
J'ai c'est commencé là, pour...
Ah oui, bah... C'était trop long.
Je suis passé à autre chose.
Je me demande si j'ai un TDAH, mais j'ai pas tenu, c'était trop long.
C'est pas moi, c'est la psy, elle voulait pas.
Mais non, il faut que t'ailles chez une neuropsy ou un truc comme ça.
Bah oui. Faire bon, c'est un peu cher, mais au moins tu sauras quoi.
Parce qu'après, tu peux
c'est
avoir,
ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, c'est un peu long et cher, alors je veux pas vous infliger ça.
Ouais, okay. C'est le problème.
Alors là, j'ai un peu peur parce que c'est une question sur Napoléon. Et je sais que quelqu'un autour de cette table a fait un album de BD sur Napoléon.
C'est moi?
Donc j'espère qu'il n'a pas la réponse. Avant que le corps de Napoléon soit rapatrié à Paris, qu'est-ce que sa tombe de Sainte-Hélène avait de particulier?
Pas de zizi.
Pas de zizi, non, la tombe. Pas Napoléon.
Je vais pas répondre à la question parce que sinon,
tu l'as
ce serait trop facile, donc je laisse à mes collègues. Ah, mais les history potes.
Ah, putain.
Mais est-ce que tu fais pas ça, genre pour faire mais quoi tu... que tu sais alors qu'en fait,
alors
tu sais
qu'en
pas.
Fait, tu sais pas du tout.
Moi aussi, je vais laisser Ariel répondre parce qu'en fait. tu sais, moi, je suis au courant en fait.
Je suis généreux, je vous laisse répondre, avoir un petit point. Voilà. Marre de gagner tout le temps.
Qu'est-ce que la tombe avait de particulier,
Elle, est, pour, elle fallait pas qu'elle soit souillée.
Bah, comme beaucoup de tombes quand même. Non, à part celle de Pétain qui est souvent souillée, d'ailleurs, le gardien du cimetière en a un peu marre. Ah, il tient à dire arrêtez de venir souiller la tombe de Pétain, c'est pas lui qui nettoie, c'est moi. C'est vrai, c'est vrai.
Elle était construite d'une manière particulière?
Non, c'était une tombe normale, mais.
Mais. Y a...
Il était tout petit alors elle était rikiki.
Non.
En plus, il était pas du tout petit, Napoléon était.
Non,
il faisait 1m53.
Non, non,
non,
non, c'est
il faisait genre 1m70, un truc comme
c'est
ça.
Mais non,
non, non. Non, mais en fait, il était même plus grand que la moyenne des hommes de l'époque. En fait, c'est de la propagande anglaise de le faire tout petit, tu vois, pour se moquer de lui. Mais en fait, il était.
Je croyais qu'il faisait 1m55.
Ah, il était plus grand que moi, en tout cas.
Ouais. Ah ouais. Mm-hmm.
C'est pas ça la question.
Bah.
Il a écrit quelque chose dessus, de particulier.
Contre les Anglais.
C'est pas... Il n'y a rien d'écrit dessus.
Il n'y a rien d'écrit dessus. Ah. Ariel, bonne réponse.
Que j'avais. Réponse que j'avais.
Tu dis toujours le truc inverse. Ouais. C'est fou. En fait, les Anglais et les Français ne se sont pas mis d'accord sur le texte à écrire sur la tombe. Bah, les Français voulaient dire un truc un peu élogieux. Ouais. Les Anglais n'étaient pas tout à fait OK avec ça. Et du coup, au final, rien n'a été écrit. La tombe était vierge.
Vu que tu dis toujours le contraire. Est-ce que tu peux nous dire où se trouve Xavier Dupont de Ligonnès? Et on dira juste, t'es à l'opposé.
Ouais, c'est ça.
Il est où? Au nord? Il faut aller au sud.
Alors que NordVPN est quand même bien meilleur que SudVPN. Ça va, Eleanor? J'ai l'impression que ma réponse t'a rendu triste.
Non.
Ah non? Ok, d'accord.
Complètement endormi.
C'était juste marqué Pichoun sur la tombe.
Pourquoi on suspendait les bébés au mur dans la campagne du 18e siècle
pour éviter qu'ils se fassent bouffer par des rats ou des animaux?
Exactement, pour pas que les animaux de ferme mangent les bébés. La mortalité enfantine était de 250 pour 1000 au 18e siècle. Les cochons rentraient dans la maison et mangeaient le bébé ou les poules leur picoraient le visage jusqu'à qu'ils meurent.
À l'époque, les animaux de la ferme, ils rigolaient vraiment pas.
C'est pour ça qu'il y a des procès d'animaux.
Ouais.
Ah. Moi aussi, j'ai un coq qui m'a sauté au visage et qui m'a picoré au-dessus de l'œil. J'ai failli être borgne à cause d'un coq. Et ma mère a tellement gueulé qu'ils l'ont tué. Le coq agressait beaucoup de gens.
Ouais.
Il agressait beaucoup de gens. Et moi, j'étais un enfant et il m'avait sauté dessus. Il m'avait picoré au-dessus de l'œil. Je pissais le sang. Et ma mère, elle a dit au voisin : bon, vous faites quelque chose. Et ils l'ont buté.
Oh
sinon, on arrive avec le fusil.
Ouais, je suis à l'origine de la mort d'un coq.
Oh putain. Non.
Voilà. Ariel, c'est ton moment.
Ouais. Ça va être. Question très simple, réponse peut-être, on ne sait pas. Petite croyance qu'on a en France, quel prénom est une légende urbaine?
Clitorine.
Bravo. Putain. Clitorine, c'est une légende absolument urbaine.
Benjamin, tu te rends compte que là, tu as toutes les réponses.
Ouais, mais celle-ci, elle compte pas. C'est un
ah oui, mais il y a déjà 3 points. Ouais. Donc, ouais.
Ouais, bravo. En fait, c'est une légende urbaine. Il n'y a jamais eu personne dans les registres des enfants naissance qui s'appelle clitorine.
Ouais.
C'est un truc qui a été lancé,
inventé, ouais, inventé une mode.
Et
ouais.
Genre, c'était pour dire, oh, regardez, on appelle vraiment les enfants n'importe quoi. Moi, je connais quelqu'un qui s'appelle clitorine.
Ah oui, d'accord. Okay. Ouais, c'est, en fait, c'est toujours ma mère qui est prof, ouais, ouais. A eu,
oui, oui,
avant,
exactement.
Ou quelqu'un que je connais.
Ouais. C'est, enfin, ah, elle est c'est comme clitorine. Ouais. Ouais.
C'est comme les spermes retrouvés dans des dans les sauces de kebab. Tu vois, on a retrouvé 7 spermes.
Non, 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 moi, j'ai eu le goût un jour.
Non, c'est juste la sauce blanche.
Ah non, c'était une biscotte.
Et t'es pareil, c'est une légende du bordel. Il n'y a jamais eu d'affaire avec
oui,
ça.
Bah oui, oui,
oui. Ça prend. Ou les aiguilles sur les sièges avec du sida.
Ah oui, oui, oui. Ou les femmes qui se faisaient enlever dans les années 70 ou 80,
oui,
qui allaient essayer des vêtements, et en fait, on les emmenait, on les mettait dans un sous-marin, et elles allaient devenir putes en Russie.
Ouais.
Et ça, c'était pas vrai. Ouais. C'est pas vrai. Mais c'était que des magasins juifs qui étaient.
Non, on se demande.
Ouais.
On se demande pourquoi.
Ouais. Les gens, ils disaient, ah non, c'est ce magasin. Et en fait, c'était un juif qui tenait ouais. le magasin, et voilà, pour que les gens n'aillent plus dans ce magasin. Allez, plus que deux questions. Benjamin a 3 points, Ariel 1 point, Eleanor 0, mais Eleanor s'endort.
Oui.
Pourquoi il y a beaucoup d'usines autour de l'aviation et de l'aéronautique à Toulouse?
Parce que il y a
Ponce Pilate.
Il y avait AZH là.
Quelle réponse qui n'a aucun sens. C'est une usine chimique.
Ah oui.
Hein, parce que c'est là-bas qu'il y a les scientifiques.
C'est pas...
tous les mecs qui ont l'accent
qui naissent
à Toulouse, en général, ils disent mais je sais quand même faire voler un avion.
Non, parce qu'il fait... parce que les et conditions coup... météorologiques le permettent.
Non.
Est-ce que le premier avion qui a volé est parti de Toulouse?
Non.
Non.
Big Flo et Oli.
C'est historique. De toute façon, là, c'est...
Oui, mais c'est historique, effectivement. Mais depuis quand et pourquoi?
Depuis les montgolfières.
Parce que les premiers essais aéronautiques sont faits
Zebda.
Dans le coin, pas du tout.
Zebda.
Ouais. Le groupe Zebda.
Non.
Non, ok. Qui était
parce qu'il y a,
un collectif
y a,
d'art,
y a,
de scientifiques
à,
artistes.
À Aix, il y a une station...
Toulouse, Aix.
Moi, bon, c'est à côté, quoi.
Toulouse et Aix.
En avion, c'est à bah, côté.
Ouais. Parce que c'est...
C'est pas faux.
Il y a peut-être un des premiers grands camps militaires ou un truc comme ça, non?
Alors, militaire, bonne réponse. Histoire de France, c'est, bonne réponse.
C'est pas politique, quelqu'un, il y a un politicien qui voulait absolument fort, que...
Non, non.
Il y a la mer, ah non.
Géographiquement, est-ce que c'est pareil?
C'est les avions, Eleanor, on s'en fout
mais
de la mer.
Mais quand il y a la mer, il n'y a pas d'immeuble?
Non, pensez à des gros événements mondiaux qui sont arrivés.
La guerre?
Ouais.
Ouais. C'est, bien,
exemple,
bah c'est bien placé.
C'est bien placé par rapport à quoi?
À la côte et à l'Espagne et à la
à
côte atlantique.
Non.
Aux Alpes.
Là. Ah ben bah pour que les alliés américains puissent
débarquer.
C'est l'inverse.
Ouais. C'est
les Allemands.
Les Allemands. Bonne réponse, Eleanor. C'est l'endroit le plus éloigné de l'Allemagne.
Ah.
Et donc, si les Allemands ils attaquent la France, ah, ils commencent à rentrer. Eux, ils ont le temps de fabriquer des avions et ils sont hyper loin. Le temps que les Allemands traversent la France pour aller attaquer les usines qui fabriquent nos avions, il y a le temps, tu vois. Et c'était pendant la Première Guerre mondiale, je crois qu'ils ont fait ça. Oui, Première Guerre mondiale. Et donc, les usines sont le plus loin possible du front, en fait. Ils auraient pu aller en Espagne, ils seraient allés en Espagne. Ouais. Voilà.
Ou en Guyane.
Ou en Guyane, voilà. Voilà pourquoi.
D'accord.
Mais aujourd'hui encore, les.
Eh ben oui, du coup, c'est resté là-bas, quoi.
Ouais. Parce qu'on se méfie toujours un peu des Allemands, quand même.
Attendez, elle a une vanne.
C'est pas une vanne, c'est une anecdote. Aujourd'hui encore, les avions du 14 juillet, ils partent d'Aix-en-Provence.
C'est Toulouse. Ce n'est pas au même endroit, Eleanor, mais pas du tout. Du tout. On est allé à Toulouse.
Ah oui, c'est en bas à gauche, Toulouse.
Oui, et Aix
en bas à droite, pardon.
Ah,
et on rappelle, j'ai eu 4 en histoire géo au bac, s'il vous plaît.
Oui,
pour moi, c'était le sud, c'était
coup,
pareil.
Du coup, lance pas des trucs. Allez, dernière question. Un point Eleanor, un point Ariel, un point Benjamin. On peut avoir...
Comment ça, un point Benjamin?
3 points Benjamin.
Merci.
Pardon, waouh, Lego. On n'a pas dit un truc, on n'a pas dit qu'on était...
En dédicace à Nice, là-bas, en bas à droite.
Exactement. on est en dédicace à Nice le 18 mai et le soir, on va faire le dernier podcast de la saison de Histoire d'en rire. En public et en direct sur Twitch. Donc si vous pouvez venir à Nice à Alpha BD, ben venez nous voir. Et puis sinon regardez-nous sur Twitch. Ça sera le samedi soir, le 18 mai. L'après-midi, on dédicacera nos albums avec Benjamin et Ariel, et Eleanor fabriquera une BD format A4 pour l'événement.
Oui, mais t'as pas dit que du coup, on sollicite vos commentaires pour me dire quoi écrire. Parce que moi, je sais pas, j'ai jamais fait de BD.
Ce qui est faux, c'est que tu sais pas écrire la BD, tu ne sais pas la dessiner.
Ouais. Si c'est pas la colorier, non plus.
La colorier, en plus, on est là-dessus, on est sur le coloriage. Ah, ouais,
ouais. Moi, j'ai commencé là pour Serge et. Non, Roger et.
Après, Eleanor, tu peux me dire, parce que moi, étant dans le monde de la BD, je connais des coloristes. Donc, quand ton album, quand t'as fini de l'ancrer, je peux te trouver un coloriste.
Ça
pourrait tellement rire d'envoyer le projet à un mec qui bosse vraiment dans la BD et qui passe. Waouh. Je vais éditer ça, est-ce que tu peux le coloriser?
Surtout que pour l'instant, c'est des bons hommes bâtons. Parce que j'ai la flemme de dessiner les corps et tout.
Alors là, tu feras jamais quelqu'un qui fait de la BD si tu dis j'ai la flemme de dessiner les corps. Mal barré.
Mais je suis gauchère alors.
Ah bah oui,
bah moi aussi.
Ah ouais.
Beaucoup de gauchers ne font rien parce qu'ils sont gauchers. Hein, c'est bien connu. Alors, dernière question. Pourquoi depuis le Moyen-Âge on fait des packs de 12?
Parce par qu'on compte comme ça sur les. Oups, pardon. Sur les phalanges.
Pas que t'as la radio.
On compte sur les phalanges et donc ça fait. Ben, il y a le là et le doigt là,
c'est la radio.
Ouais, l'os du doigt et le trou, et l'os du doigt et le trou, et l'os du doigt et le trou, et ça fait 12.
Bonne réponse, Eleanor. On comptait sur nos phalanges d'une main avec notre pouce, comme ça, avec notre pouce de la même main.
Ça fait 14.
Et donc 12 phalanges.
Mais peut-être qu'on compte pas.
Non, les phalanges,
deux,
les phalanges, Eleanor.
Ah oui, parce que
les phalanges.
C'est les phalanges.
Ah,
bon, ouais, ça marche, tu l'avais quand même.
Ouais, je l'avais.
C'était les phalanges, on a 12 phalanges.
Les trous, c'est pour
donc,
les moins.
Tu pouvais compter. Tu pouvais compter avec ton pouce de ta même main. Tu faisais 1, 2, 3, 4, 5, 6.
D'accord.
Et c'est par 12, c'est pour ça.
Ah, c'est marrant.
Ça fait 13.
Mais non, c'est pas 13.
1, 2, 3.
Mais attends,
4,
pourquoi
5,
tu. Mais tu comptes pas tes phalanges, tu comptes aussi le. Là où ça plie.
Mais
t'es
là,
con ou quoi?
Mais là, 1, 2, 3, j'ai 3 phalanges.
Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Ah ouais, j'ai mal compté.
En fait, je me suis dit, en fait, tu vas découvrir que t'as une déformation.
Ah mon dieu!
Une déformation d'un doigt.
Donc, j'annonce que c'est Ariel qui a perdu et c'est lui qui devra répondre au tu préfères qui est pas mal. Voilà. Mais c'est la rubrique de Benjamin et je rappelle que nous sommes dans l'émission numéro
19. Et oui, comme pour les précédentes émissions, je continue sur l'histoire des nombres. Le nombre 19 donc. Alors c'est marrant parce que j'ai fait des recherches cette fois-ci, contrairement au nombre 17 et 18, et j'ai appris pas mal de trucs. Par exemple, le 19 est le nombre atomique du potassium.
Waouh,
passionnant. Ouais. Encore plus passionnant, les 19 années de mariage sont appelées les noces de Crétone. Je ne savais pas du tout ce que c'était, donc j'ai regardé. C'est un tissu qui est souvent fait de coton ou de lin et qui sert à l'ameublement. Ok, j'ai menti, je n'ai pas fait plus de recherches que ça sur le nombre 19 parce que je me suis demandé, après avoir vu les noces de Crétone, quels étaient les autres noms de noces. Eh bien franchement, c'est n'importe quoi. Pas vraiment de cohérence en général. Ils y sont allés les mains dans les poches pour les nommer. Par exemple, 2 ans de mariage, ce sont les noces de cuir. Mais 3 ans de mariage, ce sont les noces de froment. Oui, le froment, comme la céréale. Ça a quand même moins de gueule. Et ça continue, on passe de tissus aux matériaux, aux fleurs, aux pierres précieuses sans savoir pourquoi. 13 ans de mariage, les noces de muguet. C'est mignon. 14 ans de mariage, les noces de plomb.
À l'enfer.
35 ans de mariage, noces de rubis. Une pierre précieuse. 36 ans de mariage, il y a eu rubis juste l'année dernière, ça doit être encore plus précieux. Non, noces de mousseline. Mais c'est à partir de 70 ans de mariage que tout part en vrille. On sent les mecs qui essaient de trouver des nouvelles choses. 70 ans de mariage, noces de platine. Ça va, c'est précieux. 73 ans de mariage, noces de fonte. À ce moment-là, plus rien n'a de valeur, puisque les 79 ans de mariage sont les noces de bambou.
Ah oui. Ah ouais, voilà,
on rentre dans la quatrième dimension aux 85 ans de mariage puisque ce sont les noces d'uranium. Ce n'est pas une blague. Voilà, pour fêter ces 85 ans de mariage, on compare ça à un matériau super radioactif. Est-ce que là s'arrête l'insulte? Non, car pour les 87 ans de mariage, ce sont les noces de psilocybe. C'est un champignon. T'as survécu aux noces d'or, de diamant, et on te récompense c'est par clair. Un vieux champi. Pour finir, une vraie recherche. Le record de longévité de mariage est détenu par des Américains. 86 ans de mariage.
Noces de quoi?
J'ai pas regardé, ça doit être les noces de papier peint. Non, en fait, c'est la jaspe. C'est une pierre précieuse. Et en France, le record est de 83 ans. Et c'est les noces de vanille.
Oh, oh
Alors que dans le sexe vanille, c'est pas toujours.
Voilà, pour l'épisode 20, je ferai plus de recherches, c'est promis cette fois.
Merci beaucoup, Benjamin. On remercie Rémi qui est à la technique.
Merci, Rémi.
On remercie Pampoitou qui est au montage.
Merci.
Et on remercie les gens de nous écouter et NordVPN de nous sponsoriser.
Merci NordVPN de nous
Merci
sponsoriser.
Merci NordVPN.
Je vous rappelle
et
qu'on se retrouve.
VPN.
On se retrouve dimanche prochain, mais pour finir cette émission, Ariel. Tu préfères être obligé de regarder uniquement CNews toute ta vie ou être l'attaché de presse de Gérard Depardieu?
L'attaché de presse de Gérard Depardieu.
Parce que tu peux rire de temps en temps. Oui. Et pas en rediff. Merci beaucoup, Ariel. Merci à tous. À dimanche prochain. Ciao.
Ciao.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.